Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour. Oui, on passe des littératures mineures au peuple minoré avec ce résultat embarrassant du référendum dimanche dernier sur le changement de nom de Macédoine en Macédoine du Nord. Oui à 92%, mais participation trop faible pour valider le vote. Bonjour Jean-Arnaud de Reims. Merci d'être au téléphone, vous êtes le rédacteur en chef du courrier des Balkans. Alors l'ONU, l'UE, l'OTAN même ont beau se vouloir enthousiastes, hein, ce résultat est une pomme empoisonnée, un plébiscite et un boycott, 36% seulement de participation. Il provoque ainsi en Macédoine une crise politique grave. Le Premier ministre Zaev pousse encore le Parlement à valider le vote, mais il a le choix, ce Parlement, entre désavouer l'Union européenne ou ignorer la majorité d'électeurs qui n'a pas voté. Zaev aura peut-être sauté entre-temps. Ensuite, ce vote met en défaut la stratégie d'élargissement de l'UE et de l'OTAN pour arrimer les Balkans. Si c'était l'arme absolue ainsi pour couper court aux réticences nationales ou nationalistes, le tir est risqué. Si c'était le signal d'un encouragement aux Balkans pour l'adhésion, la fusée a fait long feu. Enfin, ce résultat hypothèque la normalisation avec la Grèce, là où le journal Ethnos, qui veut encore y croire, parle d'une victoire à la Pyrrhus. Mais qui, finalement, Jean-Arnaud de Reims, a vraiment gagné quoi que ce soit? D'abord peut-être échec ou victoire, il y a deux visions de la souveraineté populaire là qui s'oppose.
Non mais écoutez, c'est extrêmement simple. Je crois qu'il n'y a pas de discussion possible et personne n'est enthousiaste. Il y a peut-être des gens à l'Union Européenne qui pratiquent la méthode Coué, qui font semblant d'y croire. Mais c'est un désaveu clair, cinglant, aussi bien pour le Premier ministre Zaev en Macédoine que pour l'Union Européenne, que pour les États-Unis d'Amérique qui avaient également beaucoup poussé à la conclusion de cet accord. Alors remettons juste les choses à leur signification. Le référendum était certes consultatif et la décision, de toute manière, revient au Parlement. Sauf que, pour valider le changement de nom, qui est un changement constitutionnel, puisque bien évidemment le nom d'un pays, ça affecte directement sa constitution, il faut une majorité des deux tiers. Or, l'actuelle majorité social-démocrate n'a pas cette majorité. Et la clé finale se trouve donc entre les mains du parti nationaliste conservateur, le Vömmero de Pomenehue. Celui-ci a une position que l'on peut qualifier facilement de très hypocrite, mais enfin en tout cas qui se révèle aujourd'hui très pratique pour lui, très commode. Il n'avait pas donné de consigne de vote, alors que le président de la République, également issu de ce parti de droite, appelait lui au boycott, mais le parti en tant que tel n'avait pas donné de consigne de vote, en disant seulement qu'il respecterait la volonté des électeurs, mais dans le cadre des règles existantes, c'est-à-dire qu'il y ait une majorité pour le oui, avec 50% au moins de participation. Ce contrat n'est pas rempli. Donc le Vömmero de Pomenehue ne va pas voter le changement de nom et donc le Premier ministre Zaev a dit ce qui allait se passer, il va présenter sa démission et des élections anticipées devraient avoir lieu sûrement relativement vite.
Et alors juste si on revient sur les conditions de ce vote, c'est vrai que c'est une vraie désaffection même par rapport à la participation aux autres scrutins, c'était 67% législatives en 2017 pour seulement ce chiffre. Comment est-ce que vous vous expliquez que la majorité des électeurs qui n'étaient pas d'accord ne sont pas allés voter non, qu'ils ne se sont pas déplacés?
Alors écoutez, trois choses. Bon, d'une part, il y a une dimension tactique. Beaucoup d'électeurs opposés à l'accord ont compris que c'était plus judicieux de boycotter, de s'abstenir que de voter non. Donc il y a une dimension tactique qui est évidente de la part de certains électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes. Mais ensuite, sur le fond des choses, il y a deux problèmes. Le premier problème, et ça on le sait très bien, c'est que les listes électorales sont complètement déconnectées des réalités. 67%, ça veut dire, pour la participation en 2016, ça veut dire en réalité près de 90% des électeurs en mesure d'aller voter qui se sont rendus aux urnes. Parce que sur ces listes électorales, vous avez toujours un très grand nombre de personnes qui sont décédées depuis longtemps et encore plus de gens qui n'habitent plus en Macédoine depuis des années. Pourquoi est-ce que tous les partis politiques se sont accommodés jusqu'à présent de ces listes bidons? C'est que ça permet bien évidemment toutes les manipulations, mais ça ne marche pas lorsque la question est justement celle du taux de participation à 50%. Ouais. Mais tout le monde le sait très bien, l'OSCE est la première, tout le monde sait très bien que ces listes ne représentent rien. Il y avait 1 800 000 inscrits en Macédoine, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui 1 800 000 personnes qui vivent réellement en Macédoine. Donc ça c'est un premier aspect. Second aspect, pourquoi est-ce que beaucoup d'électeurs en bonne santé, vivants, et vivant en Macédoine, qui d'habitude votent, ont choisi de ne pas aller voter sans être pour autant des nationalistes convaincus ou des anti-européens. Je crois que Zoran Zaev a multiplié les erreurs, et il ne l'a pas fait seul, il l'a fait aussi sur les conseils, pour le coup assez mal avisés, de ses alliés, de ses amis occidentaux. La première erreur, ça a été de mener des négociations secrètes avec Alexis Tsipras. Et les négociations secrètes, ça ne marche jamais. Ça laisse toujours la place aux soupçons. Les bons accords sont négociés au grand jour, publiquement, avec tout clairement mis sur la table. On vient de le voir une fois de plus. Et puis surtout, la grande erreur, l'énorme erreur de Zoran Zaev, a été de poser deux questions en une. Êtes-vous pour que la Macédoine change de nom et normalise donc ses relations avec la Grèce? Et êtes-vous pour que la Macédoine adhère à l'Union Européenne et à l'OTAN? Et là, je vais peut-être vous surprendre. Je pense que l'immense majorité des Macédoniens veulent avoir des relations normales, tranquilles, de bon voisinage avec la Grèce, parce qu'ils savent très bien que ça, c'est une nécessité. Par contre, ces Macédoniens, depuis 25 ans, en ont assez qu'on leur dise que demain, tout ira bien, que l'avenir européen va s'ouvrir à eux et que l'on rasera gratis. Plus personne ne croit à ce discours aujourd'hui en Macédoine, ni dans les Balkans en général.
Et alors, même si vous le dites, c'est plutôt ce processus qui a lassé, voire dégoûté les électeurs, est-ce qu'il faut revoir la porte ouverte à un renouveau nationaliste, notamment à travers ce VMRO des PMNE, maintenant en Macédoine et est-ce que l'UE a une responsabilité, en un sens, dans ce processus, en jouant avec le feu, en allant un peu trop vite, en appuyant ce processus secret au départ, vous le disiez?
Non, je crois que c'est pas ça. Renouveau nationaliste, non, pas du tout. Énorme lassitude. Prenez juste un exemple, très simple. L'accord avec la Grèce a été signé le 15 juin, enfin paraphé le 17 juin dernier, entre les deux pays. Et 10 jours plus tard, au sommet européen, on pensait qu'il y aurait un geste clair d'ouverture des négociations d'adhésion de la Macédoine, qui, je le rappelle, pour le coup, a quand même le statut officiel de candidat à l'intégration depuis 13 ans. Eh bien non, il y a deux pays qui se sont opposés à l'ouverture des négociations, à savoir les Pays-Bas et la France. Quand ensuite, on a pu voir juste avant le scrutin une vidéo de Monsieur Macron appelant les Macédoniens à prendre leur avenir en main et à voter pour l'Europe, je crois que cette vidéo, elle a dissuadé les gens de se rendre aux urnes. C'est juste manquer, comment dirais-je, de décence. Et je crois que les électeurs macédoniens, pour le coup, en ont surtout assez qu'on leur fasse prendre des vessies pour des lanternes. Oui. Je crois que c'est ça le fond des choses. Et du coup, la classe politique, notamment Zoran Zaev, mais pas que lui, qui n'a pas d'autres discours à tenir, qui n'a pas d'autres propositions à faire, se retrouve effectivement en position d'équilibriste. Cela fait quand même 18 mois que Zoran Zaev est au pouvoir. Et durant 18 mois, il n'a parlé que de l'accord avec la Grèce et que de la perspective européenne. Mais c'est pas du tout ça qu'attendaient les gens qui ont voté pour lui il y a 18 mois. Ce que les gens attendaient, c'était des mesures concrètes pour remettre en état les services publics, pour relancer l'économie du pays, pour essayer d'arrêter l'exode massif de toutes les forces vives, de tous les jeunes, diplômés ou non, qui quittent la Macédoine. C'est ça les choses qui sont importantes pour les Macédoniens, pas une éventuelle perspective européenne qui, de toute manière, tout le monde le sait très bien, n'a aucune chance de se concrétiser avant des années. Donc ce vote, c'est juste un retour au réel, pas un retour au nationalisme, mais un refus de cette langue de bois européenne qui est totalement déconnectée des réalités.
Et alors justement, langue de bois, vous le dites, c'est assez sévère, mais encore une fois, si je parle de la responsabilité de l'UE, c'est aussi parce que hier, le président du Monténégro, Milo Đukanović, l'a un peu mis en cause, en tout cas en disant voilà, ce vote est un signal d'alarme pour l'Union européenne, et il parlait des messages dissonants de la part du reste de l'Europe concernant le rythme auquel devrait se faire l'élargissement. C'est vrai que tous les pays sont en attente d'adhésion, pas tous au même rythme, que c'est pas forcément le même traitement pour les pays de l'Est et les Balkans. Enfin, il y a beaucoup de choses à redire pour certains dirigeants, j'imagine.
Oui, non, mais surtout, il y a effectivement, là, pour le coup, Milo Đukanović a plutôt raison, il y a une terrible cacophonie du côté des pays européens. Enfin, regardez ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2018. En février, la Commission annonce avec tambours et trompettes une nouvelle stratégie relançant le processus d'intégration européenne. 6 semaines plus tard, au Parlement européen, Emmanuel Macron dit qu'il est hostile à tout élargissement dans un avenir proche. Donc, ça veut dire concrètement, le président français désavoue la Commission. Ensuite, il y a néanmoins ce sommet européen de fin juin où, en théorie, on reparle de l'intégration, mais avec, de manière évidente, des approches politiques très différentes entre Paris, d'un côté, Berlin de l'autre, et les pays du groupe de Visegrad d'un troisième côté. Donc dans ces conditions-là, effectivement, le problème européen, c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucun discours clair cohérent et à peu près audible.
Et juste un tout dernier petit mot sur les conséquences peut-être inattendues ou involontaires de ce processus aussi. C'est un renouveau, on pourrait le noter, des tensions avec la Russie sur la question, alors peut-être un peu traditionnelle entre Russie et États-Unis sur l'ingérence dans le processus électoral, mais aussi des tensions inédites entre Russie et Grèce, la Grèce qui a expulsé 11 diplomates cet été. Ça, une réponse assez sévère du Kremlin, un avertissement sur l'intégration de la Macédoine dans l'OTAN. Ça, ces tensions avec la Russie, est-ce que vous les prenez au sérieux ?
Non, pas du tout. Ça fait partie, non, Dieu merci, non. Ça fait partie du storytelling, disons, de rien d'autre. On essaie de nous rejouer le scénario d'une guerre froide, mais qui n'a aucun lien avec aucune espèce de réalité. Les intérêts de la Russie en Macédoine sont nuls. Et traditionnellement, aucun parti politique de Macédoine n'a de sensibilité pro-russe. Par contre, on veut effectivement rejouer à l'échelle européenne, et notamment dans les Balkans, cette nouvelle guerre froide, et c'est pour le coup toute la tragédie des Balkans depuis la fin du 19e et le début du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, que d'être un terrain de jeu sur lequel les grandes puissances peuvent mettre en scène leur rivalité. Et ça, c'était déjà la situation avant 1914, c'est malheureusement à nouveau aujourd'hui la situation, et ceux qui en payent les frais, ce sont toujours les peuples des Balkans qui payent les frais de cette théâtralisation d'un affrontement entre les grandes puissances qui en réalité n'a pas de signification réelle sur le terrain.
Eh bien merci beaucoup Jean-Arnaud de Reims, on lira la suite dans le Courrier des Balkans.